Chapitre 4. Nous allons lire deux versets, Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Et nous allons lire les versets 2. On peut lire les versets 2 jusqu'au verset 6. Mais nous allons considérer les versets 2 et 4. Colossiens chapitre 4. Alors les sœurs devraient trouver ce livre facilement. La Bible s'ouvrait d'elle-même peut-être dans ces pages qu'elles ont étudiées pendant plusieurs mois. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit assez accompagné de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alors l'apôtre Paul est ici sur le point de terminer cette lettre, et avant de commencer les salutations à partir du verset 7 de plusieurs de ses collaborateurs, il donne encore quelques dernières instructions. Et j'ai envie de dire que la dernière instruction qu'il donne est un peu dirigée sur cette relation que le croyant doit entretenir avec Dieu dans la prière. Il les exhorte à la prière, et donc on pourrait dire à une vie intérieure et puis aussi à une vie extérieure, parce qu'il parle à partir du verset 5, il dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors ». Mais nous voulons considérer cette vie intérieure à laquelle il exhorte les croyants de Colosse. Alors, on avait considéré il y a deux mardis que le commandement, la prière est un commandement. On trouve à chaque fois beaucoup d'impératifs concernant la prière dans l'Écriture. Mais nous voyons ici que non seulement il nous est commandé dans l'Écriture de prier, mais il nous est commandé de prier avec persévérance. C'est ça que je voudrais souligner ce soir. Verset 2, persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Alors, persévérer, ça veut dire quoi? Là-dedans, il y a l'idée d'une persistance, l'idée de la constance, d'assiduité, on pourrait dire, de soin permanent que l'on apporte vraiment à une chose. Et on trouve plusieurs endroits dans l'Écriture, beaucoup d'endroits, on va en regarder juste quelques-uns, où la persévérance est attachée à la prière. Et dans la vie, par exemple, des premiers chrétiens, c'est assez fortement souligné. Déjà, avant même la Pentecôte, quand les disciples étaient réunis dans la chambre haute, dans Actes chapitre 1 et au verset 13 et 14, on lit ceci. Il dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. » On trouve aussi la persévérance indiquée avec la prière comme qualificatif pour la prière dans Actes chapitre 2 verset 42. Ça c'est déjà l'Église naissante après la Pentecôte. Il dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc déjà c'est une caractéristique bien distinctive de l'Église primitive. Et même les apôtres, rappelez-vous, quand il y a eu la question de servir aux tables, il y avait l'Église grandissait, beaucoup de monde, et il fallait servir aux tables, il y avait des personnes qui étaient oubliées, d'autres, etc. Ça avait commencé à créer une certaine discorde. Alors, vous vous rappelez ce que les apôtres avaient dit, ils avaient donné comme conseil que l'on choisisse des personnes qui vont servir aux tables. Et ils avaient dit cela comme ça, ils disent... c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. La distribution, ce qu'on a appelé ça après les diacres, des gens qui étaient préposés au service des tables. Et puis, il a, verset 4 dit, dans Actes chapitre 6, verset 4, il est dit, « Et nous, nous continuerons à nous appliquer, et le mot « appliquer », c'est le même que « persévérer » qu'on a lu dans Colossiens. C'est comme s'il disait, « Nous continuerons à persévérer à la prière, dans la prière et au ministère de la parole. Hein, » Donc, il fallait, pour que les apôtres puissent avoir, on pourrait dire, les coudées franches afin d'enseigner comme il le faut, et porter l'Église comme il le faut, ils avaient besoin de persévérance dans la prière, donc ils avaient besoin d'être dégagés de certaines tâches pour pouvoir le faire. Donc là, on voit rapidement comme ça quelques endroits où cela est écrit, mais l'exhortation même est donnée aussi beaucoup dans l'Écriture aux chrétiens de persévérer. Là, on voit l'Église, les apôtres qui ont persévéré, mais l'exhortation de la persévérance dans la prière est aussi adressée aux chrétiens. Romains chapitre 12, verset 12, dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Et puis si vous avez regardé dans votre Bible, vous avez le parallèle du passage que nous avons lu qui se trouve en Éphésiens chapitre 6 et au verset 18, il est dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Hein » vous voyez, donc ce n'est pas simplement que l'on est exhorté à prier ou à faire toutes sortes de prières, mais à côté de cela, il y a la notion de persévérance avec laquelle on doit s'adonner à la prière. En Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse. Hein, » Priez sans cesse. Et le Seigneur Jésus lui-même, dans l'enseignement qu'il a donné sur la prière, dans Luc chapitre 18, la Bible dit même qu'il donne une parabole afin de montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, si parfois on n'a pas toujours écrit au début d'une parabole pourquoi elle est donnée, mais ici celle-là en particulier qui concerne la prière, eh bien il dit que Jésus a donné cette parabole, Luc 18 verset 1. Il dit Jésus adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc c'est dire ici, l'importance, non seulement de prier, à laquelle nous sommes exhortés en tant qu'enfants de Dieu, mais l'importance de persévérer, de persister, d'être patient dans la prière. Alors, vous le savez peut-être ou vous le savez peut-être pas, chaque année en France, depuis quelques années maintenant, il y a ce qu'on appelle la semaine de la persévérance scolaire. Les jeunes qui sont à l'école, ils ont eu vent de ça. Donc, il y a une semaine, donc c'est dans différents départements et c'est pas toujours aux mêmes dates. Mais chaque année, j'ai regardé un peu, j'avais vu qu'il y a plusieurs années qu'ils faisaient ça déjà au Canada. Mais en France, on fait la semaine de la persévérance scolaire. Et le but avéré de cette semaine de la persévérance scolaire, c'est de transmettre le goût de la persévérance aux scolaires et aux étudiants, de les conscientiser, il est dit même de conscientiser la population à l'importance de la persévérance scolaire et surtout de contrer ici le décrochage scolaire. Parce qu'il y a des étudiants, des élèves qui décrochent très facilement. Alors comment faire pour pallier à ce problème de décrochage, d'absentéisme, d'étudiants, d'élèves qui... Alors il faut conscientiser la population, les parents, les élèves, à la persévérance scolaire. Il me semble que dans le domaine spirituel aussi, eh bien, on a besoin de lutter contre le décrochage spirituel, le décrochage dans le domaine de la prière. Hein. La réunion de prière de l'Église, des Églises en général, est celle qui enregistre peut-être le plus fort taux de décrochage. Alors, si on compare avec le dimanche, hein, et c'est vrai. Et probablement l'une des raisons, c'est parce que notre vie de prière personnelle aussi connaît un certain décrochage. Et c'est un théologien qui s'appelle R.C. Sproul, il disait ceci, il disait « Nous chutons en privé avant de chuter en public », toujours. Et c'est vrai, c'est-à-dire que si nous avons du mal à apprécier les rencontres ensemble pour prier, probablement parce que personnellement aussi, nous connaissons une difficulté ou un manque de persévérance. Celui certainement qui qui aime la communion de Dieu dans la prière aime aussi la communion des frères, je crois, dans la prière. Il aime se retrouver avec eux pour prier avec eux. Et quand on lit les évangiles, on voit combien, hein, il dit que l'Église ensemble, hein, persévérait dans la prière. Bien sûr, les individus, les personnes individuellement persévéraient, mais aussi l'Église entière persévère. Donc nous prions sans doute, hein, mais ici, Paul met l'accent vraiment sur la constance, l'assiduité, la persistance, le soin permanent que nous devons apporter à la prière individuelle et aussi à la prière collective. Okay. Ce qui manque, ce qui nous manque, c'est vraiment la persévérance dans la prière. Et l'Épître aux Hébreux, dans un autre contexte, pas forcément celui de la prière, mais disait que vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Donc, c'est quelque chose dont nous avons besoin. J'aimerais souligner peut-être deux ou trois choses, peut-être deux grandes choses. C'est premièrement que la persévérance dans la prière prouve la réalité de la foi. La persévérance dans la prière prouve la réalité de la foi. Premièrement parce que la persévérance dans la prière est un commandement. Et la Bible dit que celui qui aime Dieu, il fait quoi? Il garde ses commandements. Il les met en pratique. Donc celui qui persévère tel que Dieu le demande, prouve par là qu'il aime Dieu, qu'il se soumet aux commandements de Dieu. La persévérance dans la prière témoigne vraiment de la dépendance constante à Dieu. Dans la prière, c'est à qui on s'adresse? C'est à Dieu qu'on s'adresse, par Jésus-Christ, bien sûr. Et la Bible nous dit ensuite, assisté par le Saint-Esprit. Mais c'est à Dieu que l'on... C'est Dieu que l'on cherche à travers la prière, c'est lui que l'on attend, c'est à lui que l'on s'attend aussi à recevoir, et cela témoigne vraiment de la confiance que l'on a en lui. En Luc 18:1, Jésus donne, on a dit, une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Puis il raconte l'histoire, on ne va pas le lire, mais il raconte l'histoire de ce juge et de cette femme qui était dans une même ville. Et puis cette femme vient le voir et puis lui dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Et puis il dit, bien, moi je ne crains pas Dieu, je ne crains pas les hommes, etc. Puis il dit, bien que je ne crains ni Dieu ni les hommes, eh bien, cette femme, elle vient tout le temps l'importuner. Alors pour qu'elle ne lui casse pas la tête, il va lui faire justice. Et puis il lui fait justice. Et Jésus dit, et ne croyez-vous pas que Dieu, hein, il ne va pas faire promptement justice à ses élus qui crient à lui. Mais le passage au verset 8 se termine avec ceci. Il dit, mais quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et quelque part, on pourrait dire que ce que Jésus raconte sur la prière, ici sur la persévérance dans la prière, est lié à la foi. Et donc là, celui qui persévère dans la prière, et le contexte ici, si vous regardez le chapitre 17 de Luc, c'est celui de l'attente du retour de Jésus-Christ. Dans cette phase où on est, hein, où nous attendons Jésus-Christ, eh bien, il dit, il encourage les disciples à prier, à ne pas être comme les gens du temps de Noé ou les gens du temps de Lot, hein, qui mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Et puis il dit, et le jugement est arrivé de manière inattendue. Et il dit, si vous voulez pas être dans cet état, il dit, eh bien, il faut persévérer dans la prière. Parce que la persévérance dans la prière marque que vous avez confiance en Dieu quand il revient et son retour. Vous pensez à cela, vous priez pour cela, vous attendez, hein, vous êtes confiant dans le retour de Christ. Donc la persévérance dans la prière prouve la réalité de la foi. J'aimerais juste donner à ça une illustration, c'est celle qu'on trouve dans l'Ancien Testament avec Daniel. Vous vous souvenez de Daniel. Lorsque Daniel était, bon, il était devenu placé dans le gouvernement à Babylone, et il y avait de la jalousie qui s'est installée parmi les autres personnes, les autres responsables du gouvernement, et ils ont cherché à accuser Daniel, à trouver en lui une faille. Et la Bible dit qu'il ne pouvait pas trouver. Il pouvait rien trouver parce que c'était un homme fidèle, un homme intègre. Et donc, ils ont dit, il faut qu'ils en trouvent une dans la loi de son Dieu. Bon, ils n'ont pas réussi à le coincer. Et ils ont réfléchi et ils ont dit, mais qu'est-ce qui pourrait vraiment, je dis ça comme ça, mais qu'est-ce qui pourrait vraiment atteindre cet homme? On va essayer de toucher à ce qui constitue un pilier dans sa vie. Et là, peut-être, et comme pilier, ils ont trouvé le fait qu'il priait régulièrement, avec persévérance. Alors, ils ont créé de toutes pièces une loi qui interdise de prier à quelqu'un d'autre que le roi, bien sûr. Et la Bible dit ici que, eh bien, Daniel, quand il a entendu ce décret, c'est un décret du roi, et puis ils avaient fait en sorte que ça soit irrévocable, que quiconque ait pris la main dans le sac à prier un autre, quelqu'un d'autre que le roi, eh bien, se retrouvera dans la fosse, au lion. Daniel, quand il entend ça, le texte nous dit, il priait et louait Dieu, son Dieu, comme il le faisait auparavant. Il a continué à persévérer dans la prière. Avec contre-cœur, vous vous rappelez peut-être de cette histoire, le roi Darius, donc, puisque Daniel est fautif par rapport à la loi, il le fait jeter dans la fosse, et il lui dit ceci, c'est assez surprenant, il lui dit, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » C'est-à-dire que ce que les personnes avaient vu de ses collègues, on pourrait dire babyloniens, avaient vu de Daniel, c'était sa persévérance dans la prière. Il priait 3 fois par jour, la Bible dit, en direction de Jérusalem, fenêtre ouverte. Ce que le roi a vu de lui, c'était aussi sa persévérance dans la prière, parce qu'il lui dit, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. La manière de servir qu'il avait montré de manière la plus évidente, c'était sa prière persévérante. Et puis, le roi, ce soir-là, il n'arrive pas à dormir, et au petit matin, la Bible dit, hein, au point du jour, il court à la fosse, et puis il va trouver Daniel, il est tout triste, et puis il dit, certainement, Daniel, peut-être qu'il espère entendre sa voix, et puis il dit, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer? Et je suis surpris que, par 2 fois, il insiste sur cela. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Avant de le jeter dans la fosse, et après l'avoir jeté, il s'interroge ce trait, si vous voulez, de Daniel l'a marqué. Cette persévérance, on pourrait dire, malgré toutes les interpellations, les oppositions, pardon, interpelle le roi Darius, et c'est cette constance, cette continuation, cette ténacité dans la prière qui a parlé en faveur de sa foi. Et donc, on peut dire ici que vraiment la persévérance dans la prière prouve la réalité de la foi. On pourrait prendre encore d'autres exemples pour cela. Mais deuxième chose peut-être que l'on peut voir aussi, c'est que la persévérance qui est exigée ici montre que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour favoriser la constance dans la prière. Si la Bible dit « persévérer dans la prière », c'est qu'on doit tout faire pour persévérer. On l'avait dit la dernière fois, quand la Bible donne un commandement, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour obéir à ce commandement. Il faut nous éloigner de tout ce qui pourrait nous éloigner du commandement, nous rapprocher de tout ce qui pourrait favoriser à l'obéissance à ce commandement. Alors, comment persévérer? Moi, je crois que ce que Paul dit dans la suite de ce verset est une manière de persévérer. Il dit, persévérer dans la prière, verset 2, veillez-y avec action de grâce et priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Donc, comment persévérer? Mais je crois qu'il faut être premièrement vigilant, très vigilant. Il dit, veillez à cela avec action de grâce. Éphésiens 6, verset 18 souligne la même chose. Il fait en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et veillez à cela avec une entière persévérance. Jésus, quand il a exhorté ses disciples à prier, a insisté aussi là-dessus. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Et donc, la vigilance est une disposition, on pourrait dire, que doit prendre celui qui veut persévérer dans la prière. Veiller, c'est être attentif, c'est faire attention à l'indolence, hein, au fait de s'endormir. Et on connaît l'histoire des disciples qui se sont endormis dans le jardin quand Jésus était en train de prier. Alors sans doute le sommeil est une bonne chose, mais il peut devenir très vite l'ennemi de la persévérance dans la prière. Et c'est quelque chose contre lequel nous avons, peut-être pas vous, mais moi plus, on a à lutter parce qu'on est parfois fatigué et on se laisse abattre par la fatigue. Mais la prière parfois est le sommeil parfois est un obstacle. Rappelez-vous le pilote du navire qui allait à Tarsis, dans lequel il y avait Jonas. Il était dans une grande tempête et que faisait Jonas? Il dormait au fond du navire. Et le pilote vient et puis qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi dors-tu? Lève-toi et invoque ton Dieu. Hein, dans la traduction d'Arby, il est dit que fais-tu là, dormeur? Hein, c'est un peu plus vigoureux. Hein. Il dit lève-toi. Et c'est exactement ce que Jésus dit à ses disciples quand Luc le dit, quand il revient du temps de prière dans le jardin de Gethsémané, en Luc chapitre 22, verset 46, qui est le verset que nous avons choisi comme verset thème, il dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. » Quelque part, Jésus s'étonne de ce que ses disciples dorment à un moment aussi important pour lui et aussi pour eux. Et donc la vigilance, on pourrait dire, consiste à saisir l'importance du temps dans lequel nous sommes. 1 Pierre 4, 7 dit « La fin de toute chose est proche, et donc soyez, vous rappelez ce qu'il dit après, sages et sobres pour vaquer à la prière. » 1 Pierre 4, 7. Vous voyez, donc il dit « Attention, il y a des choses qui vont se passer, la fin arrive, ce n'est pas le moment de dormir, il faut vraiment être sage, être sobre pour vaquer à la prière. » Ça veut dire « Soyez vigilants ». Soyez vigilants. Et il n'y a pas de persévérance sans vigilance. La vigilance consiste aussi à offrir le meilleur moment. Hein? Être vigilant, c'est aussi chercher à offrir le meilleur moment pour la prière. Et c'est intéressant de noter que Jésus, on voit bien dans l'exemple de Jésus que c'était un homme de prière. Il priait à tout moment. Parfois, il passait la nuit à prier, parfois le soir, il partait, il priait, mais on le retrouve souvent aussi le matin qu'il priait. Dans Marc, chapitre 1, eh bien, on a ceci, il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc 1, verset 35. Et donc, le temps d'intimité matinale avec son père était quelque chose d'incontournable pour Jésus. Il avait ce temps où il passait dans la prière très tôt le matin. Le texte prend le temps de nous dire que c'était tôt le matin. Et puisque notre notion du matin reste un peu floue, je crois que le Saint-Esprit dit quand il faisait encore sombre. Hein, pour dire exactement ce que c'est que le matin. C'est qu'il y a des gens qui ont une notion très élastique du matin. Hein. Ils se réveillent à midi, puis ils disent « je me suis réveillé le matin ». Je me suis réveillé à midi ce matin. À midi, ce n'est pas le matin, hein. C'est déjà le midi. Hein. Et pour montrer comment l'importance que Jésus accordait à la prière, il dit ici qu'il se levait tôt le matin quand il allait dans un lieu désert pour être sûr de ne rencontrer personne, d'être dans la solitude avec son père. Et vous rappelez de cette histoire où les disciples sont venus le matin, ils ont commencé à le chercher, ils ont dit « tous te cherchent », etc. Mais lui, il était parti, il s'était déjà retiré dans son lieu secret pour avoir ce moment d'intimité. Et la version d'Arby dit souvent « longtemps avant le jour hein, », c'est-à-dire pour dire quand il faisait encore sombre, c'est longtemps avant le jour hein, que Jésus se levait pour prier. Il me semble que les heures matinales sont les meilleures. Alors c'est sûr, il y a des gens qui disent « moi je ne suis pas du matin ». Je suis plutôt du soir. Mais quand on a passé une journée harassante, hein, si j'en juge parfois par les yeux, même ce soir, qui parfois sont là, mais qui font des efforts pour être attentifs, et je ne vous en veux pas, hein, mais la journée, ça fatigue, n'est-ce pas? Et quand on arrive le soir, on est très fatigué. Et pour la plupart d'entre nous, le soir n'est pas les meilleurs moments que l'on peut offrir. Il faut offrir à Dieu du temps le soir, dans le culte de famille, dans la prière, toutes ces choses. Mais je crois que le matin est le moment où on est le plus frais, avant que l'on ait commencé quoi que ce soit. Et si vous lisez la vie des hommes que nous admirons souvent pour leur caractère spirituel, leur proximité avec le Seigneur, on découvre souvent que c'était des personnes qui passaient du temps dans la prière, beaucoup de temps, et très tôt le matin. Beaucoup de temps et très tôt. Et je crois que cela est un enseignement pour nous. Si on désire vraiment avoir cette relation avec Dieu et être persévérant dans la prière, il faut être vigilant sur le temps que l'on accorde à Dieu. Et il y a un auteur qui s'appelle Andrew Bounce, dit ceci. Il dit, un désir d'intimité avec Dieu qui ne peut pas briser les chaînes du sommeil est une chose faible. Un désir d'intimité avec Dieu. Oui, je veux être avec Dieu, mais qui n'a pas la force de rompre les chaînes du sommeil, il dit, c'est une chose faible. Alors, c'est important de si on veut réserver le meilleur temps, de faire tout pour réserver le meilleur temps à Dieu. N'est-ce pas? Parfois, ça va demander de se coucher tôt. C'est vrai que dans nos sociétés hyper électrisées avec les luminaires artificiels, on a beaucoup tendance à pousser la journée très loin dans les heures. Hein. Mais il faut, je crois qu'il faut être vigilant, c'est savoir se ménager aussi pour avoir le meilleur temps à accorder à Dieu dans la prière. Parfois, nous disons. J'ai eu un soir épuisant, un samedi soir épuisant, je me suis couché très tard, j'étais invité, j'étais chez des amis, je suis trop fatigué pour venir au culte. C'est étrange lorsqu'un croyant parle de cette manière. C'est-à-dire que il dit que il ménage tous ses efforts pour être dans les invitations qu'il peut recevoir quelque part. Mais cela, au détriment du temps qu'il peut avoir avec le corps de Christ le dimanche dans l'adoration, dans le jour du Seigneur. C'est une chose qui est triste, n'est-ce pas? Donc nous devons, bien sûr, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas aller quelque part, mais nous devons calculer, être vigilants là-dessus, dire si je vais là, peut-être jusqu'à cette heure-là, et puis après, il faut que je rentre parce que demain, je veux être avec mes frères et sœurs et dans l'adoration avec le Seigneur. Ou je veux être à la réunion de prière. Alors, on s'arrange pour dégager ce temps. C'est ça, être vigilant aussi. Hein. C'est chercher comment on peut dégager le meilleur moment pour l'offrir à Dieu. Est-ce qu'il en est digne? Oui, il est digne. Donc, il nous faut faire les efforts, c'est faire tous les efforts pour offrir à Dieu le meilleur du temps que l'on a. Et les psaumes, on pourrait lire deux versets, 143 verset 8, dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Et chaque matin, on a besoin de connaître dans quel chemin on doit marcher. Donc si on ne prend pas ce temps pour se placer devant Dieu, eh bien, quelqu'un faisait remarquer que quand Jésus avait passé du temps dans le jardin à prier, Pierre dormait à ce moment-là. Et quand les soldats sont venus, eh bien, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a dit quelque chose de charnel. Il a coupé l'oreille aux soldats. Jésus a dû réparer sa faute. Mais il dit, mais lui, le Seigneur, il était prêt. Lorsque Jésus passe tôt le matin à prier, dans Marc chapitre 1, la Bible dit que la veille au soir, Jésus a guéri tous les malades qui étaient venus à lui. Il avait eu une journée, il avait enseigné dans le temple, il avait guéri la belle-mère de Pierre. Après, il a guéri tous les malades le soir, il s'est couché, je ne sais pas à quelle heure, peut-être tard. Hein. Mais le matin, quand il faisait encore sombre, il était déjà levé. Et quand on vient le chercher, puis on lui dit, « Oh Seigneur, tous te cherchent !» Allez, viens, il dit, non. Il dit, « Allons à Capernaum. » Il avait une direction précise, parce qu'il savait exactement ce qu'il devait faire. Il avait pris ce temps, cette préparation, dans le ciel. C'est un grand exemple pour nous. Je devance l'aurore, dit le psalmiste, et je crie, je prie, ça veut dire la même chose. Mais il le fait quand ? Il devance l'aurore pour le faire. Il dit, j'espère en tes promesses. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Psaume 119, versets 147 et 148. Et puis je termine en disant que une autre manière que je pense Paul donne ici pour persévérer dans la prière, c'est les actions de grâce. Il dit, veillez-y avec action de grâce. L'action de grâce est la reconnaissance à Dieu. Thessaloniciens 5, 18 dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc la gratitude, rappelez, n'est pas quelque chose de naturel dans le cœur de l'homme. Nous considérons les choses comme si elles étaient un dû. Hein, souvent, rappelez-vous l'histoire des 10 lépreux que Jésus guérit. Il dit, tous les 10 prient, Seigneur, aie pitié de nous. Tous les 10 sont guéris, mais Jésus fait remarquer qu'il n'y a qu'un seul qui revient pour rendre grâce, rendre gloire à Dieu. Il y en a un seul qui, dans le cœur duquel il y a cette attitude de reconnaissance et qui vient se jeter, prier au pied de Jésus-Christ. Ici. Donc c'est important, je crois que si on prend l'habitude de rendre grâce, cela aide à la persévérance dans la prière parce qu'il y a des bienfaits et des bienfaits et des bienfaits que Dieu déverse sur nous chaque jour. Le psalmiste disait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui, et puis il dit beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup de bienfaits que Dieu nous accorde et nous pouvons, quand on y pense, passer du temps dans la prière, rien que pour le remercier pour cela. Et donc, le fait de chercher à rendre grâce, cette reconnaissance, c'est une aide pour la persévérance aussi dans la prière. Et puis, aussi, troisième chose, je crois que l'intercession est quelque chose qui nous aide aussi à persévérer dans la prière. L'apôtre Paul dit ici, dans le passage que nous avons lu, verset 3, « Priez en même temps pour nous ». C'est de l'intercession, ça. Intercéder, c'est prier pour les autres. Hein, on a dit ça dimanche. Hein. Donc, le manque de persévérance dans la prière est peut-être aussi parfois le résultat de manque d'intercession pour les autres, du manque d'intérêt dans la vie des autres. On persévère dans la prière quand on a le souci des autres. Quoi. Et cela est évident dans les lettres de Paul. Hein. Quand il prie, il dit « Je rends grâce à Dieu pour vous tous, mais je prie pour vous tous » dans Philippiens. Il dit hein, « Je vous porte sur mon cœur ». Constamment dans ses lettres, on voit qu'il avait le souci des autres et il priait, je suppose, quasi individuellement pour chaque personne. Il n'y a qu'à voir comment il cite à la fin de ses lettres les personnes qui sont avec lui et où il demande de saluer telle personne pour voir qu'il passait un temps pour prier, probablement spécifiquement pour chacune de ces personnes. Et l'intercession est pratiquement liée à la persévérance. Il n'arrive pas à les dissocier. On ne peut pas dissocier. Je crois que quand on parle d'intercession, il y a une notion de persévérance qui est attachée. Il n'y a pas de véritable intercession qui ne soit de la persévérance. Quand on prie pour le salut de quelqu'un, quand on intercède pour le salut de quelqu'un, on le fait avec persévérance. On ne fait pas une prière comme ça, une fois de temps en temps. Mais on cherche à persévérer, à prier Dieu, à, comme quelqu'un disait, il y a un pasteur qui disait ça, il dit, j'attrape les pans de la robe de Dieu et puis je prie, hein, j'intercède pour qu'il sauve un tel ou un autre. Quand on prie pour un enfant qui ne connaît pas le Seigneur, qui s'éloigne du Seigneur, on ne prie pas une fois, on prie tous les soirs. On prie, on demande, on cherche des arguments que l'on va porter auprès de Dieu. On sait qu'il faut que ce soit Dieu qui attire pour que les gens viennent à Christ. Et bien on demande à Dieu d'attirer. Hein. On le fait avec persévérance. On le fait tout le temps, on le fait régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'on répète tout le temps les mêmes choses. Mais ça veut dire que le sujet, il est toujours là. Cette personne, elle est toujours présente. Et on ne lâche pas, comme disent les jeunes, on ne lâche pas l'affaire, hein, on fait comme Jacob. Hein, je ne te laisserai partir que tu ne m'aies béni. On prie jusqu'à, hein, avec beaucoup de persévérance. L'église de Jérusalem, par exemple, hein, intercède à un moment pour Pierre. Vous vous rappelez, Pierre était en prison. Et Actes chapitre 12 nous dit ceci, il dit que Pierre était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et quand il dit cela, il montre que l'Église persévérait. Elle ne cessait de d'adresser des prières pour Pierre à Dieu. Alors, on ne sait pas ce qu'ils ont demandé. On ne sait pas sous quelle forme. Ils n'ont probablement pas dit « délivre-le, 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 délivre-le hein, ». C'est pas, je suppose que ce n'est pas comme cela qu'ils ont prié. Probablement, ils ont prié pour que Dieu délivre Pierre de la prison. Et probablement, ils ont prié pour lui, pour son état d'esprit, pour ses pensées, qu'elle demeure en Christ. Il y a beaucoup de choses que l'on peut prier pour quelqu'un qui est dans une situation difficile. Ce n'est pas simplement que Dieu le sorte de cette situation, mais c'est que même s'il le garde dans cette situation, qu'il puisse grandir à travers cette situation, qu'il puisse croître, qu'il puisse être affermi à travers cette situation. Bon, le texte ne nous dit pas tout ça, mais il nous dit par contre que l'Église a persévéré. Et le mot qui est utilisé ici pour ne cessait de prier, c'est le même que Luc utilise dans Luc 22 quand il dit que Jésus était en agonie, il priait avec instance. C'est exactement le même mot. Et le commentateur John MacArthur fait remarquer que ce mot est relié à un terme médical qui décrit l'étirement d'un muscle jusqu'à la limite. Et donc, il dit ici, c'est comme si on disait qu'en d'autres termes, l'Église est allée jusqu'au bout d'elle-même dans ses prières. Elle a prié au maximum. Elle a cherché à épuiser tous les aspects qu'elle pouvait épuiser dans la prière pour Pierre. Et c'est ainsi que l'on doit intercéder aussi. C'est pour cela que l'intercession est liée aussi à la persévérance. Quand on intercède pour que Dieu intervienne, on doit aller jusqu'au bout, on doit chercher les arguments que l'on peut avoir. Comme Moïse, on a vu dimanche, hein, comment il a puisé des arguments pour intercéder pour le peuple. Et donc l'intercession, bien sûr, nous aide aussi à persévérer dans la prière. Je termine avec cette citation ici, d'un évangéliste écossais du 19e siècle, s'appelait Burns. Il dit, il était connu pour être un homme de prière, et il dit, beaucoup de ceux qui viennent dans le lieu secret et qui sont, beaucoup de ceux qui viennent dans le lieu secret et qui sont des enfants de Dieu, y rentrent et le quittent comme ils y sont rentrés, sans jamais même prendre conscience de la présence de Dieu. Et il existe des croyants qui, même quand ils obtiennent une bénédiction et reçoivent un attouchement dans leur âme, quittent le lieu secret sans rechercher plus. Ils vont dans leur chambre et là se rendent dans un lieu secret, et alors, aussitôt qu'ils se sont approchés de Dieu, ils pensent avoir été admirablement bénis et quittent ainsi la chambre pour retourner dans le monde. Oh, comment, dit-il, comment se fait-il que le peuple de Dieu ait si peu de persévérance? Comment se fait-il que quand ils se rendent dans leur lieu secret de prière solitaire, ils se sont si vite fait persuader qu'ils y retournent vides? Au lieu de combattre avec Dieu pour qu'il déverse son esprit, ils quittent le lieu secret sans réponse et interprète cela comme étant la volonté de Dieu. Donc c'est un homme qui insiste sur le fait que voilà, on doit prendre ce temps, chercher à persévérer avec Dieu dans la prière. Comme Moïse a intercédé pour le peuple, il n'a pas dit ça m'a coûté une journée de prière. Il a dit ça m'a coûté 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger. Deutéronome chapitre 9 verset 9. Il dit, parce que Dieu était en colère contre vous et il avait parlé de vous détruire. Il dit, j'ai intercédé 40 jours et 40 nuits. On ne demande pas, on n'aura peut-être pas souvent l'occasion de jeûner 40 jours et 40 nuits. Mais quand même, nous sommes vraiment exhortés à considérer notre vie de prière et à persévérer dans la prière. Donc nous allons prier, prendre quelques instants maintenant pour prier. Alors comment persévérer pratiquement dans la prière, hein, si j'ose dire? Eh bien, il faut planifier des temps de prière, probablement. Puisqu'on veut être vigilant, il faut planifier du temps de prière. On peut prier de manière spontanée, c'est vrai, mais la rencontre avec Dieu nécessite du temps. L'intimité avec Dieu nécessite du temps. On peut parler avec son épouse de temps en temps, à droite, à gauche, pendant qu'on tient l'appel et qu'on fait le jardin, mais je crois qu'elle ne se satisfait pas de ce genre d'entretien. De temps en temps, elle dit, Emma, il me faut du temps où on discute, où on parle, en tête à tête. Et c'est pareil, On peut, voilà, dans le train ou quand on fait quelque chose, on peut prier en tout lieu, hein, prier Dieu en tout lieu, mais il y a la nécessité d'avoir ce temps persévérant dans la prière avec Dieu. Puis, peut-être pour nous aider, nous pouvons avoir des listes de prières. Si on veut intercéder pour les gens, il faut avoir des listes de prières. Parfois, les gens nous disent « prie pour moi ». On dit « oui, je vais prier pour toi ». Qui n'a jamais oublié de prier pour quelqu'un ? Je pense que tous, hein, on a déjà oublié de prier pour quelqu'un. Mais ce n'est pas par manque d'intérêt forcément, mais c'est par manque de méthode des fois. On n'est pas obligé d'être méthodiste, mais c'était par manque de méthode. Il faut noter, il faut faire une liste. Il y a des outils qui nous aident maintenant. J'ai une petite application, parce que vous êtes maintenant très électronique, qui s'appelle PrayMate, je crois, comme ça. Hein. Donc, on peut mettre les noms par catégorie, église, famille, personne, inconverti, etc. Il y a même des rappels. Hein. Il y a aussi des fois des petits textes bibliques sur la prière hein, qui nous aident à méditer sur la prière. Et tout, vous pouvez régler ça, par exemple, deux fois dans la journée, à un moment donné, vous savez que vous allez pouvoir avoir le temps pour prier à un autre moment, et le matin, puis l'après-midi, ou c'est pas quelque part, par exemple, et ça vous rappelle, ah, il faut prier pour Ebi, je le regarde, donc, il faut prier pour Ebi. Et puis, vous pouvez mettre les raisons, pas simplement prier pour, hein. Seigneur, je te prie pour Ebi, amen, non, mais qu'est-ce que l'on demande à Dieu précisément? Et puis après, vous pouvez mettre aussi même l'exaucement à ces prières. Ça aide à intercéder pour les autres et à persévérer dans la prière. On a quelque chose de tangible. On a vu la semaine dernière l'importance de prier avec les Écritures et de prier l'Écriture. Hein. C'est une manière aussi importante, incontournable pour le croyant qui veut persévérer dans la prière. Il y a bien d'autres choses que l'on peut faire. On peut avoir des gens avec qui on prie, se retrouver. Il n'est pas interdit de se retrouver avec des frères et sœurs pour pouvoir prier. Mais on doit faire tous les efforts pour dégager, soit méthodiquement, soit du temps, en tout cas, pour obéir à ce commandement de Dieu, dans lequel il nous demande de persévérer dans la prière. Que le Seigneur nous aide. On veut prendre quelques sujets, peut-être avant de prier, on n'a pas beaucoup de temps qui reste, mais on peut néanmoins prendre quelques sujets de prière.